Avec cet enseignement, on rentre donc dans un nouveau thème, enfin qui n'est pas tout à fait nouveau évidemment, mais hier on a parlé surtout de la création, aujourd'hui on va parler de la providence. Et en guise d'introduction, je vais vous rappeler le lien qu'il y a entre la providence et la création, la doctrine de la providence et la doctrine de la création, puisque les deux sont intimement liés. Alors tout d'abord, une petite définition de la providence que vous retrouverez dans le catéchisme à l'article 302. Donc on appelle providence l'ensemble des dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers la perfection à laquelle il la destine. On va en reparler tout au long du topo, donc vous pourrez assimiler comme ça. La doctrine de la providence et la réalité de la providence se situe à l'intersection de trois dogmes fondamentaux de notre foi, le dogme de la création, le dogme de la rédemption et le dogme de l'eschatologie, donc en fait tout ce qui concerne les fins dernières. Donc je ne vais pas vous parler de l'eschatologie parce que frère Raphaël vous en parlera, ni de la rédemption parce que frère Joseph vous en parlera, mais je vais vous parler un petit peu de la création. Alors je vais faire une petite rétrospective à partir du catéchisme de l'Église catholique, donc si vous voulez revoir, ce sera à partir du numéro 299. Une petite rétrospective sur la création pour bien voir à quel niveau s'insère la doctrine de la providence. Donc tout d'abord, il y a l'acte créateur, Dieu qui crée un monde bon et ordonné, destiné à l'homme, qui en est le sommet. Et l'ensemble de la création est au service de l'homme. Dieu transcende sa création et lui est intimement présent. À la fois, il est infiniment plus grand que la plus grande des œuvres de la création, et en même temps, il est présent à l'intime de chaque chose. Ensuite, Dieu maintient et porte la création, on en reparlera brièvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas un horloger qui a créé et qui ensuite laisse la machine tourner toute seule. Il est présent à l'intime, donc c'est lui qui porte la création au quotidien. Ensuite, et donc c'est là que intervient vraiment la providence. On dit que l'Église nous enseigne que la création a été conçue en état de voie. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé tout le monde qui existe dans un état de perfection absolue, mais il y a un cheminement qui reste à faire vers une perfection ultime. Et justement, c'est vis-à-vis de ce cheminement qui reste à faire que la providence va jouer tout son rôle. Bon, ensuite, il y a eu le péché originel, donc avec l'introduction d'un désordre dans la création. Et après, il y a tout le problème du mal qui est lié, dont frère Joseph vous parlera. Et puis, Dieu donc, a un dessein, donc un projet de perfection pour l'ensemble de sa création. Et ce projet, il va le mettre en œuvre à travers sa divine providence, qui va s'exercer dans tous les domaines de notre vie, dans tout l'univers entier. La providence a deux fins, deux finalités. Pour le monde créé, c'est de faire en sorte que le monde soit entièrement au service de l'homme. Et pour l'homme, c'est faire en sorte que l'homme retrouve la parfaite intimité avec Dieu, c'est-à-dire ultimement le salut. Voilà, donc ça c'était pour resituer la providence dans l'ensemble de la création. Alors après, il y a l'aspect de la rédemption. Donc simplement, la seule chose que je dis par rapport à ça, c'est que le Fils de Dieu qui s'incarne et qui vit sa passion, meurt sur la croix, qui rachète l'humanité, c'est l'acte majeur de la providence. Voilà. Et il y a l'aspect aussi de l'eschatologie que frère Raphaël développera, puisque la vie du ciel, la béatitude éternelle, c'est la finalité ultime de la providence, puisqu'on marche tous vers notre salut. Alors, pour ce topo, donc, d'abord, on va parler un petit peu du gouvernement divin, donc je vais dire ce que c'est juste après. Ensuite, on verra que la providence est universelle, donc un petit peu ces différentes modalités, les modalités à travers lesquelles elle se met en œuvre. Ensuite, brièvement, on parlera de la conservation des créatures, donc le fait qu'on existe, voilà, c'est un miracle remarquable. Ensuite, d'une façon un peu plus détaillée, on verra comment comment nous, les créatures, nous participons au plan, au gouvernement divin. Donc on parlera de cause première, cause seconde, et puis on verra différents aspects théologiques, des aspects concrets, on parlera de la liberté, du hasard et des miracles, mais si on a le temps, bien sûr, voilà. Alors, donc je commence avec une première partie sur le gouvernement divin. Alors, ce qu'on appelle la providence, c'est le plan de salut de Dieu. Et ce qu'on appelle le gouvernement divin, c'est la mise en œuvre dans le temps du plan providentiel. Voilà, c'est la mise en œuvre dans le temps. Alors, que le monde créé et gouverné, ça, on s'en rend compte, on le perçoit, on mesure chacun, on observe chacun, ou on en a connaissance, de différents dynamismes qui parcourent le monde, la nature. Alors, c'est des dynamismes qui sont très variés, des processus, et on voit que le monde est ordonné. Et donc, on voit que tous ces dynamismes, en fait, ils ont une cohérence interne. Donc, ça peut être du plus bas des dynamismes. Par exemple, la plante, la petite fleur, ben voilà, elle a son dynamisme interne. Enfin, bon, il y a plein de dynamismes dans la nature. Et on se rend compte que tous ces dynamismes, en fait, eh ben, à la fois, ils ont une finalité en eux-mêmes. Donc, ils ont un sens pour eux-mêmes. Et en même temps, on voit qu'ils sont tous ordonnés à un dynamisme plus grand. Voilà. Et donc ça montre que le monde est gouverné. Pour prendre un parallèle, on peut dire, mettons, si je rentre dans une chambre, vous voyez, et que la chambre est bien rangée, bah, je vais me dire, bah, voilà, il y a de l'ordre, il y a de l'ordre dans cette chambre, donc il y a quelque chose, il y a une intelligence qui habite cette chambre, voilà. Alors que si c'est le gros bazar, bon, voilà. Voilà. Donc nous, ce qu'on observe dans la nature, c'est, dans la création, c'est pareil, on se rend compte qu'il y a de l'ordre intelligible plutôt que du désordre. Donc, on en déduit qu'il y a un agent, quelqu'un qui agit de façon intelligente, qui est aux commandes, entre guillemets. Voilà. Alors, comment l'agent intelligent, donc Dieu, gouverne-t-il ? Il gouverne de façon immanente et non extérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un horloger. Ça veut dire qu'il gouverne de l'intérieur. Donc, il est présent au sein de sa création. Et il agit à travers la nature même des choses. Donc c'est mystérieux. On va essayer un petit peu au long de l'enseignement d'en préciser certaines facettes, on va dire, de ce mystère. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, il agit de l'intérieur. Et du coup, il n'y a pas de contradiction entre les processus propres à la nature et l'action de Dieu qui agit. Il y a pas, c'est pas bah, parce que Dieu agit, bah, en fait les processus qui sont à l'œuvre dans la nature ne sont qu'apparents et n'existent pas. Ou alors on peut pas dire non plus bah, parce que on constate des processus naturels, bah, c'est la preuve que Dieu n'existe pas, ou du moins que Dieu n'agit pas dans la nature. En fait, les deux ne se situent pas tout à fait sur le même plan, et donc c'est bien les deux qu'il faut maintenir. Il y a des processus naturels et Dieu en même temps qui agit à travers ces processus. Alors, l'objectif du gouvernement divin, c'est Dieu lui-même, en fait. Parce que, en fait, pour le montrer un petit peu, Dieu dirige la création, et en fait, quand on va dire qu'il est cause, il est cause première de la création, et en fait, une cause cherche à produire un effet. Donc dans n'importe quel domaine, après je vais donner un exemple. Une cause cherche à produire un effet, et l'effet qu'elle produit participe, en quelque sorte, à la propre perfection de la cause. Donc pour donner un exemple, par exemple, vous voyez un professeur qui il va enseigner ses élèves, et ben le professeur, en donnant son enseignement, permet à l'élève de participer à sa propre science à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Bah Dieu, c'est pareil, en fait. Dieu, qui est la cause première de l'univers, il fait participer toute chose dans l'univers à sa propre perfection, à lui. Du coup, chaque chose tend à sa manière à imiter Dieu. Alors, à sa manière, parce qu'en fait, de façon très diverse, parce que pour nous qui sommes des créatures intelligentes, donc spirituelles, on tend à imiter Dieu de façon plus ou moins consciente selon les personnes, mais d'une façon extrêmement développée. Alors que par exemple, le caillou, voyez, bah, forcément, sa participation à la perfection de Dieu est beaucoup plus restreinte, on va dire. Voilà. Voilà. Donc par ailleurs, donc ça c'est là, chacun, dans chaque être, dans toute sa vie ou dans toute son existence, tend à imiter Dieu. Et en même temps, cette finalité ultime, qui est l'imitation du Créateur, n'exclut pas des finalités intermédiaires. Donc pour prendre un exemple, par exemple, vous avez l'amour conjugal, donc l'amour entre un époux et son épouse, c'est pas juste un moyen d'imiter la charité de Dieu. Vous voyez, l'amour conjugal, il a une finalité en lui-même. Voilà. Ensuite, donc on voit que, étant donné que l'homme est au sommet de la création, et les enseignements d'hier l'ont bien dit, on voit que la doctrine chrétienne de la providence est anthropocentrique. Donc l'homme est au cœur du projet providentiel. L'action providentielle vis-à-vis de l'homme s'exerce de différentes façons. Alors d'abord, Dieu, de toute façon, en tant que créateur et en tant qu'il anime ses créatures, il est cause première de toute action. Mais aussi, il propose comme objet à la volonté libre de la personne les actions qui lui conviennent en vue de sa perfection. Ça veut dire qu'en fait, Dieu est présent à l'intime de nous-mêmes. Saint Augustin disait que Dieu est plus intime, était plus intime à lui-même que lui-même ne l'était. Et donc Dieu nous inspire de l'intérieur, en fait, sans faire violence à notre volonté, parce que c'est lui qui est à la source de notre volonté. Donc sans nous faire violence, il nous inspire de l'intérieur pour aussi voilà, poser des actions qui vont dans le sens de la providence. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du caractère universel de la providence. L'enjeu de cette partie, c'est de montrer que la providence ne peut pas s'exercer réellement sur les hommes si elle ne s'exerce pas aussi sur l'ensemble de la création. Voilà, c'est en lien aussi avec la toute-puissance de Dieu. Si Dieu est tout-puissant, sa toute-puissance s'exerce réellement sur toute chose. Si elle ne s'exerce pas sur toute chose, s'il y a des aspects de la création qui échappent à Dieu, eh ben c'est qu'en fait, Dieu n'est pas tout-puissant. Voilà, donc sa providence s'exerce aussi donc sur les moindres détails de la création. La providence s'étend à tout. Toute chose, voilà, toute chose rentre dans l'action de la providence. Ensuite, rien ne résiste à la providence. Alors ça, c'est important de le voir. En fait, il y a deux ordres d'action en fait dans le monde. Il y a ce qu'on va appeler, donc il y a l'unique ordre universel fondé sur la cause première, donc Dieu est cause première, et c'est lui qui, en fait, sa présence est diffuse dans la création, ou plutôt infuse, sa présence infuse la création, et ça c'est l'ordre premier. Donc rien n'échappe à cet ordre de causalité, Dieu est à l'origine de toute chose. Mais ensuite, sous cet ordre global, si vous voulez, il y a une multitude d'ordres liés à des causes secondes. Donc, en fait, la multitude des contingences de ce monde sont autant d'ordres de causes secondes. Alors, autant il peut y avoir des événements qui vont perturber l'ordre des causes secondes, autant l'ordre de la cause première ne peut pas être perturbé. Donc, par exemple, mettons, j'ai organisé une super fête, voilà, tout est prévu dans les moindres détails, ça va être génial, etc. Donc, moi, je suis cause seconde de ma super fête. Et voilà qu'un gros orage va éclater, et donc ça va tout me mettre par terre. Ben moi, en tant que cause seconde, en tant qu'organisateur de cette fête, ben j'ai été perturbé et ça a tout raté. Voilà. Mais Dieu, lui, il est encore au-dessus de moi. Moi, je suis là le petit organisateur, mais lui, il est encore au-dessus. Et donc lui, qu'il y ait un gros orage qui éclate ou qu'il n'y en ait pas ou qu'il se passe quoi que ce soit, en fait, tout est dans sa main. Et donc, lui, il n'est pas perturbé dans son ordre de causalité, vous voyez? Donc tout ce qui se passe, quand bien même il y a des imprévus, etc., même ces imprévus sont dans sa main, quand bien même ma liberté ou la liberté de mon voisin qui va organiser une fête concurrente ou je ne sais pas quoi, eh ben, quand bien même ça, entre guillemets, c'était imprévu, ben, même ces imprévus sont dans la main de Dieu et n'échappent pas à sa providence. Voilà. Donc rien ne résiste à la providence de Dieu. Alors, ensuite, un autre aspect très important, c'est que nous participons à l'exécution du plan providentiel. Ça veut dire que le gouvernement divin, il n'y a pas que Dieu qui le met en œuvre. Librement, Dieu nous demande de participer à ce gouvernement. Alors bien sûr, lui seul en est le concepteur, lui seul a sa main au-dessus de toute chose, mais il nous associe. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous associe à son plan de gouvernement, enfin à son gouvernement divin plutôt ? Alors bien sûr, il y a une part de mystère, hein, on ne peut pas vraiment pénétrer les mystères de Dieu, mais en même temps on saisit que si nous, nous étions comme des robots, voyez, bah, le monde serait beaucoup moins parfait que si, librement, nous pouvons choisir de collaborer à l'action de Dieu. Voyez. Donc notre liberté, la mise en œuvre de notre liberté et notre libre collaboration sont un bien plus grand que si on était simplement des robots contraints, entre guillemets, d'agir dans le plan de Dieu. Et cette participation des créatures au gouvernement divin a plusieurs implications qui méritent d'être soulignées. Alors, donc déjà, ça nous permet d'avoir le fait de savoir que Dieu nous invite à collaborer à son gouvernement divin. Et ben, ça nous aide à comprendre qu'on doit coopérer, donc que concrètement, chacun d'entre nous, dans les actions qu'on pose au quotidien, dans notre façon d'être, etc., eh bien, on a un rôle à tenir, donc non seulement pour, en vue de notre propre sainteté, finalement, parce que c'est la sainteté, hein, la finalité ultime de la providence, c'est, on a dit que c'était le ciel, donc c'est la sainteté. Donc non seulement notre coopération doit travailler à notre propre sainteté, mais en plus, on participe au travail qui va mener l'ensemble de la création vers la perfection. Et puis, cette participation éclaire aussi l'importance des médiations. Donc, le fait qu'on puisse collaborer à notre propre salut, le fait que l'Église est médiatrice entre Dieu et les hommes, ça éclaire aussi l'importance, ou le rôle du moins, des ministères, des ministres ordonnés en vue de la sanctification des fidèles. Donc, par exemple, les prêtres, bah, quand ils donnent les sacrements, ils participent à la providence divine, en fait, parce qu'ils nous permettent de nous réconcilier, de recevoir Jésus, etc. Donc ils participent directement à cette providence. Et puis ça souligne aussi l'importance de la prière, puisque si notre prière a du sens, c'est justement parce que Dieu nous écoute et qu'il nous permet de participer à sa providence. Voilà. Ensuite, voilà, donc brièvement, je fais une. Donc là, j'arrive à ma troisième partie, sur la conservation des créatures dans l'être. Alors là, je serai très bref. L'idée, c'est juste de retenir que la création n'est pas seulement un acte du passé. Dieu, il n'a pas créé le monde il y a, je ne sais pas, des milliers d'années ou plus. La création de Dieu, en fait, elle est actuelle et elle est en permanence, en fait. Alors nous, dans notre intelligence, notre pauvre intelligence laborieuse, on fait des distinctions en se disant bah, « il y a eu la création au départ, et ensuite il y a le maintien dans l'existence ». Mais en fait, en Dieu, tout est un. Donc la création n'est pas juste un acte du passé. Oui, donc Dieu nous maintient dans l'être. Donc on pourrait faire une hypothèse qui est totalement fictive. Et donc en soi, on pourrait dire que cette hypothèse n'a pas d'intérêt, mais on pourrait se dire que Dieu, s'il voulait, il pourrait annihiler ses créatures. Donc c'est-à-dire il pourrait faire retomber toutes ces créatures dans le néant. Et ce qui fait qu'on se retrouverait avec bah, même pas un tas de poussière, en fait, parce que ce serait le néant. Alors, en soi, on pourrait se dire que ça sert à rien de se dire ça, parce que de toute façon, c'est pas le cas. Mais ça nous aide à nous dire, à mesurer, en fait, la bonté de Dieu. Voilà, à chaque instant, notre existence à chacun, et puis à toutes les autres choses de l'univers, notre existence, eh ben, elle est possible parce que Dieu nous maintient dans l'être. Voilà. On doit notre existence à la libre bonté de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, je vais développer quelques aspects supplémentaires. Donc, c'est là que je vais parler de la cause première, la cause seconde, et puis de différents autres aspects. Alors... En gros, bon, l'idée, c'est que, donc, en nous permettant d'être participants du plan de la mise en œuvre du plan providentiel, Dieu nous permet d'être notre propre providence, en quelque sorte. En gros, il nous délègue une partie de sa providence, donc pour les choses qu'on va vivre nous-mêmes au quotidien, mais tout en gardant bien sûr la main sur l'ensemble de ce qui se passe. Et donc notre participation en tant que cause seconde ne s'oppose pas à Dieu qui est cause première. Et en effet, donc je développe un tout petit peu ces notions de cause première et cause seconde. Dieu est source de notre être, source de notre existence, et donc il est aussi source de notre agir. Si chacun de nous dans toutes nos actions, pardon, chacun de nous dans toutes nos actions, on agit en dépendance de Dieu qui nous donne la possibilité d'agir. Donc Dieu est cause première de notre agir. Et en même temps, chacun d'entre nous, on est vraiment à l'origine de notre agir. On est vraiment totalement libre. Voilà, et donc on est cause de notre agir. Alors, voilà ce qu'on appelle une cause seconde. Les causes secondes sont toutes les réalités créées de l'ange à l'homme, en passant par la pluie, le soleil, etc., auxquelles Dieu choisit d'avoir recours pour gouverner le monde. Et là, je vais juste vous faire une petite citation qui explicitera beaucoup plus simplement et beaucoup plus clairement ce que j'essaie laborieusement de vous dire. Alors, je ne sais pas si c'est un prêtre ou pas qui a dit ça, mais en tout cas, c'est limpide. Donc voilà ce qu'il écrit. Dans le froid qui me saisit, je découvrirai la providence. Dans la chaleur qui me dilate, la providence. Dans le vent qui souffle et pousse mon navire loin ou près du port, la providence. Dans le succès qui m'encourage, la providence. Dans l'adversité qui m'éprouve, la providence. Dans cet homme qui me fait de la peine, la providence. Dans cet autre qui me fait plaisir, la providence. Dans cette maladie, dans cette guérison, dans cette tournure que prennent les affaires publiques, dans ces persécutions, dans ces triomphes, la providence, toujours la providence. Voilà, donc ça résume bien, je trouve. Voilà. Je continue parce que le temps passe vite. Enfin, selon moi, le temps passe vite, selon vous, je ne sais pas. Et alors, donc, pour conclure cette partie sur cause première, cause seconde, qui finalement n'était pas très développée, bon, ben, c'est comme ça. Je vous refais une citation des articles 306 à 308, mais avec des coupures, rassurez-vous, du catéchisme. Voilà, donc ce que dit le catéchisme sur ce sujet. Dieu est le maître souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Il ne leur donne pas seulement d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer. Dieu donne ainsi aux hommes d'être cause intelligente et libre pour compléter l'œuvre de la création. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine. Voilà, article 306 à 308, si vous voulez relire. Voilà. Et donc, le catéchisme aussi, après, va donner plusieurs exemples, que je vais passer rapidement, sur la façon concrète d'agir en tant que cause seconde. Donc, de participer au gouvernement divin. Alors, donc je passe rapidement, mais j'en donne quand même quelques-uns. Donc, il y a d'abord la loi morale. La loi morale, c'est une règle de conduite qui est dictée par l'autorité compétente en vue du bien commun, et l'autorité compétente doit se référer à la loi de Dieu. Parfois, elle ne le fait pas, hein, mais là, elle s'écarte du plan providentiel. Donc, nous-mêmes, en respectant cette loi morale, eh bien, on participe au gouvernement divin, puisque on fait en sorte que la volonté divine, en fait, se répande dans la société. Une autre façon de participer au gouvernement divin, c'est l'engagement en société ou en politique. Donc ça, vous pouvez le retrouver à l'article 1884 du catéchisme. L'Église parle du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça consiste à laisser faire par une société inférieure ce qu'elle est capable de faire, sans qu'une société supérieure vienne lui prendre ses compétences. Donc ça, ça se met en œuvre au sein de la vie en société. Du moins, ça doit se mettre en œuvre au sein de la vie en société. Par exemple, donc c'est pas le sujet principal, mais par exemple, l'État doit laisser une certaine liberté d'initiative ou de réalisation diverse au peuple qui habite dans le pays. Et l'État ne doit pas tout prendre en main. Il y a des choses que les personnes sont capables de réaliser par elles-mêmes, de mettre en œuvre par elles-mêmes. Eh bien, elles doivent pouvoir le faire. Et ce principe de subsidiarité se produit aussi dans la relation entre l'homme et Dieu. Dieu laisse à l'homme la liberté de mettre en œuvre les aspects du gouvernement divin que lui-même est capable de mettre en œuvre. Ensuite, il y a la propriété. Donc, vous retrouvez ça à l'article 2403. L'Église a toujours reconnu le droit à la propriété privée, qui ne contredit pas la destination universelle des biens. Aujourd'hui, on entend parfois « la terre est à tout le monde ». Et en fait, alors certes, la terre est à tout le monde, enfin, entre guillemets, mais en fait, la propriété privée a beaucoup de valeur, parce qu'en fait, quand on est propriétaire, mettons, d'un terrain ou d'autre chose, eh ben, on prend soin de notre propriété. Et donc, du coup, on collabore aux soins de la création, Parce que ben, la propriété qui est la mienne, ben, je ne vais pas en faire n'importe quoi et je ne vais pas la faire devenir un taudis, vous voyez. Voilà. Et donc ça nous permet justement, cette propriété qu'on a, on la fait fructifier et donc on participe au gouvernement divin. Voilà, ça c'est un aspect très important. Hein. Voilà. Et puis, dernier aspect dont je parle, c'est la prière. La prière chrétienne, nous dit le catéchisme, est coopération à la providence divine, à son dessein d'amour pour les hommes. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je parle juste brièvement de la liberté. Alors, la question, c'est est-ce que notre liberté, étant donné que Dieu est cause première de toute chose, peut-être qu'on vous en a déjà parlé, la liberté ? Non. Étant donné que Dieu est cause première de toute chose, on pourrait se dire, mais est-ce que ma liberté est vraiment libre, en fait ? Donc, ou est-ce qu'elle est juste apparente ? Donc, par exemple, on peut penser au oui de la Vierge Marie. Donc, nous, bon, on pense à chacun de nous, évidemment, mais par exemple, le oui de la Vierge Marie, bah, est-ce que c'est un oui vraiment libre ? Pour l'incarnation, ou est-ce que de toute façon Marie, entre guillemets, n'avait pas le choix de dire oui, voyez, voilà, ou de dire non plutôt. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que, comme je le disais un peu tout à l'heure, il n'y a pas de concurrence entre ma liberté et la main de Dieu qui tient toute chose, toute la création dans sa main, puisque ma liberté est une liberté créée, donc c'est Dieu qui a créé cette richesse incroyable qu'est la liberté. Et ce qu'on appelle la liberté, c'est la possibilité d'être à l'origine de ses choix et de choisir le bien. Et donc, en fait, si je suis à l'origine de mes choix et que je vais choisir le bien et renoncer au mal, ben, en fait, en choisissant le bien, je choisis une voie qui, ultimement, me conduit en Dieu, puisque Dieu est le bien par excellence et la plénitude du bien. Donc, en fait, quand j'exerce ma liberté, je ne peux pas aller contre Dieu, et si j'exerce vraiment ma liberté, je mets forcément mes pas, alors consciemment ou non, mais je mets forcément mes pas dans les pas de Dieu. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et pour ce qui est du libre arbitre, donc le libre arbitre, c'est le fait d'être à l'origine de ses choix, c'est comme Saint Augustin le disait, Dieu et à l'intime de moi-même, il m'est plus intime que je ne le suis à moi-même, et donc il n'est pas extérieur à ma volonté, et Dieu, quand il m'inspire, il vient pas faire une pression en fait sur ma volonté. C'est de l'intérieur, Dieu habite ma volonté, parce qu'il est créateur de tout mon être, il est créateur aussi de ma volonté. Donc il habite ma volonté, et donc j'exerce mon libre arbitre en symbiose avec Dieu, en quelque sorte, si j'écoute vraiment le bien. Après, il y a tout le problème du mal, mais ça, frère Joseph vous en parlera. Un petit mot sur le hasard. Alors on entend beaucoup, il n'y a pas de hasard, ou alors l'inverse. Alors qu'est-ce que le hasard déjà ? Le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes qui produit un effet fortuit, donc imprévu. Donc, par exemple, je fais des ricochets sur un lac, et là, tout d'un coup, il y avait un baigneur, et la tête du baigneur se retrouve, paf, sous ma pierre, il est assommé, il se noie. Bon, le baigneur n'avait pas prévu de mettre sa tête sous ma pierre, j'avais pas prévu que le troisième ricochet de mon caillou tomberait sur sa tête. Bon, bah, ça fait un effet imprévu, donc on va dire, bah, c'est le hasard. Mais en fait, donc c'est vrai que c'est le hasard. Mais en fait, le hasard est relatif, parce que du point de vue de moi en tant que cause de mon acte, ou du point de vue du baigneur en tant que cause de son acte, effectivement, c'est le hasard. Mais au-dessus de ces causes secondes, il y a la cause première, et tout est dans la main de Dieu. Et même des événements qui, à vue humaine, sont regrettables, entrent dans le dessein de Dieu et servent à sa providence d'une façon ou d'une autre, d'une façon mystérieuse. Voilà. Voilà. Pour la question des miracles... Et là, j'ai fini, après, rassurez-vous. Alors, le miracle, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement réel, objectif, qui n'est pas susceptible d'être produit par le jeu des causes secondes à l'œuvre dans la nature. Alors, il y a différents types de miracles, mais là, j'entre pas dans le détail, parce que j'ai pas le temps. Le miracle, c'est pas la façon la plus courante d'agir de Dieu. Entre guillemets, parce qu'on va voir que... Bon. En fait, les deux plans d'action habituels de Dieu pour nous conduire à la foi, c'est premièrement la révélation des vérités surnaturelles qu'il nous propose à croire, donc c'est la révélation, et deuxièmement, une grâce intérieure qu'il nous donne pour donner notre assentiment à ces vérités surnaturelles qu'il nous propose. Et le rôle du miracle là-dedans, c'est d'attester au regard de la raison humaine que la révélation que Dieu nous propose à croire, est bien d'origine divine. Parce que dans le miracle, il y a deux aspects à considérer. Donc il y a le fait miraculeux en lui-même, telle ou telle guérison, etc. Et puis sa finalité, c'est-à-dire le message qu'il comporte. Dieu, il ne fait pas des miracles pour faire du spectacle. Voyez, il ne dit pas « je vais montrer que je suis puissant, je vais faire du spectacle ». Les miracles, ils ont une finalité qui est cachée, entre guillemets, derrière le fait lui-même. Et même une guérison, par exemple... Ben, si ma grand-mère a été guérie de je sais pas quoi, de quelque chose, eh bien, en soi, bon, ben, sa guérison, c'est déjà une finalité réelle, mais derrière cette guérison, Dieu montre à tous ceux qui en seront témoins qu'il est la providence pour l'homme et qu'il travaille au bien de l'homme. Et saint Augustin, c'était très beau, il disait que... Il parlait de l'impact... je pense qu'il ne dit pas l'impact psychologique, parce que c'était pas un mot de son époque, mais... En gros, il parlait de l'impact psychologique du fait miraculeux en disant que le fait miraculeux nous invite à porter un autre regard sur la création. Et en fait, tous les processus, tous les dynamismes qui sont à l'œuvre dans la création sont miraculeux, en fait, enfin, sont extraordinaires. Rien que le fait qu'on soit là, vivant, mais même notre chien, le dynamisme de la petite de l'arbre qui est là, tout est extraordinaire. Et les miracles nous invitent à porter un autre regard sur la création pour voir comment Dieu anime cette création d'une façon extraordinaire. Voilà. J'arrête là. En conclusion, je vous redis juste la définition de la providence. Bon, c'était peut-être un peu embrouillé, hein, mais bon, je suis désolé. Mais je vous redonne la définition de la providence et après je vous fais une petite citation. Donc la providence, c'est l'ensemble des dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers la perfection à laquelle il la destine. Et je vous fais juste une citation pour conclure. Donc c'est une citation qui ouvre vers des perspectives un peu plus concrètes. C'est une supérieure d'une communauté religieuse de Bolène, donc pendant la Révolution, donc un monastère. C'est ce que disait la supérieure aux sœurs de son couvent le lendemain du jour où elles apprenaient que toutes les communautés religieuses étaient dissoutes et que, en gros, les religieuses qui persévéraient dans cet état seraient hors la loi et risqueraient évidemment la mort. Donc voilà ce que disait cette supérieure. « Attendons en paix et confiance toutes les dispositions de la divine providence sur l'état présent de son Église et de son peuple. Adorons, soumettons-nous avec un humble silence. Mettons-nous dans les intérêts de sa justice en y sacrifiant les nôtres et espérons tout de sa divine miséricorde. Tant que Jésus sera au milieu de nous, et il le sera jusqu'à la consommation des siècles, les pasteurs et fidèles n'ont rien à craindre que tout s'entrechoque et bouleverse ce Jésus-Christ inconnu, méprisé du monde, où il habite dans les tabernacles. Il sera toujours un refuge assuré, la paix, la joie des élus. »